Bonsoir et bon début de semaine à tous. Signature hier dimanche à Addis Abeba de l'accord cadre destiné à ramener la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. 11 pays africains ont procédé à cette signature devant les facilitateurs des Nations Unies et de l'Union Européenne et de l'Union Africaine plutôt. Les pays signataires de ce document se sont engagés pour un retour de la paix dans l'est de la RDC et dans toute la région. Quelle analyse faire de cet accord cadre et quel pourrait être son impact dans la pacification de l'est de la RDC. C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 25 février 2013. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu. Il est en ligne, monsieur le gouverneur. Bonsoir.
Oui, bonsoir madame. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio.
Martin Fayoulou, député national de l'opposition et président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement SID. Monsieur Fayoulou, bonsoir.
Bonsoir.
Et le professeur Félicien Kabamba, professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Professeur Kabamba, bonsoir.
Bonsoir.
Merci parce que vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Jacques Moulungu qui dit ceci. Je constate que cet accord ne donnera aucune issue pour la paix en RDC car le Congo est un pays envié pour ses multiples richesses. Ceux qui agressent la RDC ne peuvent jamais accepter le rétablissement de la paix pour que les Congolais profitent véritablement de ces richesses. Ce sont des mascarades politiques et c'est de la farce car certaines de nos autorités s'enrichissent aussi dans ce désordre. Joseph Assosa de Béni au Nord Kivu. Nous saluons cet accord. C'est un grand avantage pour nous, populations de l'Est en particulier, également pour la RDC en général. Ce que nous demanderons aux membres signataires de cet accord, c'est le respect de leur engagement. Merci de nous suivre partout en RDC sous la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radioocapi.net.
Vers un retour de la paix dans la partie est de la RDC, l'accord garantissant la mise en œuvre de cette paix a été signé hier dimanche à Addis Abeba en Éthiopie. Devant les facilitateurs des Nations Unies et de l'Union africaine, les 11 pays signataires de ce document se sont engagés à respecter l'engagement pris pour un retour de la paix dans l'est de la RDC et dans toute la région. Les grandes lignes de cet accord avec Mimi Ngumba Mulongo, notre envoyé spécial à Addis Abeba.
Concernant la République démocratique du Congo, elle prend l'engagement de continuer et d'approfondir la réforme du secteur des sécurités, mais aussi promouvoir les objectifs de la réconciliation nationale, de tolérance et de démocratisation pour ne citer que cela. Quant aux pays de la région, ils sont appelés à ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États voisins tout en respectant leur souveraineté. Ils se sont aussi engagés à ne pas tolérer ni fournir une assistance quelconque à des groupes armés. À l'endroit de la communauté internationale, il est prévu une revue stratégique de la mission de l'ONU, ce qui permettra de renforcer son appui au gouvernement pour faire face aux enjeux d'ordre sécuritaire. Il faut aussi souligner la nomination prochaine d'un envoyé spécial des Nations Unies devant soutenir les efforts de paix. Enfin, l'accord cadre prévoit un mécanisme de suivi avec notamment une évaluation synchronisée entre la RDC, les pays limitrophes, les partenaires régionaux et la communauté internationale.
Depuis les sièges de l'Union africaine à Addis Abeba, Mimi Ngumba Mulongo, Radio Okapi. Merci Mimi pour tous ces détails. Oui, au cours d'une conférence de presse tenue hier à Addis Abeba, le président de la RDC, lui, a lancé un appel à ses pairs des pays des Grands Lacs à faire asseoir la logique de la force de la loi pour garantir la paix dans la région. On écoute un extrait du discours de Joseph Kabila, président de la RDC.
Il est temps, plus que temps, que nous tournions définitivement le dos à cette logique de notre âge, fondée sur la loi de la force plutôt que sur la force de la loi, qui confond vengeance et justice et qui autorise le plaignant à rendre des sentences dans sa propre cause et à les exécuter lui-même. Il est temps, plus que temps, que nous garantissons à nos populations le droit à la vie, et la jouissance soutenue du bien-être le plus précieux qu'ils attendent de leur dirigeant, à savoir la paix.
C'était là le président Joseph Kabila, chef de l'État de la République démocratique du Congo. Julien Paluku, je rappelle que vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu. Quelle analyse faites-vous de cet accord cadre signé hier à Addis Abeba en Éthiopie?
Merci madame, je voudrais commencer par souhaiter un joyeux anniversaire au président Abiy qui rend un précieux travail à la nation.
Merci.
Comme vous parlez de l'accord cadre, je pense que nous devons nous réjouir de cet engagement de tous les chefs d'État. Du point de vue de l'analyse, j'ai quatre éléments ou trois éléments d'analyse. Le premier, c'est que à travers cet accord, je constate que les Nations Unies se sont rendues finalement compte que la RDC et ses voisins, notamment les Rwanda et l'Ouganda, ont signé beaucoup d'accords en bilatéral, mais qui n'ont pas résolu les problèmes. C'est le cas, par exemple, de l'accord d'Ngurdoto qui avait été signé en septembre 2007 entre la RDC et l'Ouganda pour traquer toutes les forces négatives. C'est le cas, par exemple, du communiqué de Nairobi qui avait été signé entre la RDC et le Rwanda pour traquer les FDLR, mais qui n'a jamais produit des résultats. C'est le cas, en 2009, de cet accord tacite qui a amené toutes les troupes rwandaises à venir opérer à côté des FRDC pour traquer les FDLR. C'est le cas de beaucoup d'autres accords bilatéraux qui ont été signés, mais qui n'ont pas effectivement résolu les problèmes parce qu'on a assisté à un marché des dupes où des gens signaient des accords, mais ne respectaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. C'est la raison pour laquelle les Nations Unies ont souscrit, à mon avis, à un accord élargi aux autres partenaires pour que désormais tous ces signataires-là deviennent des témoins de la bonne foi et de la mise en œuvre de l'accord. Ça, c'est le premier élément de l'analyse.
Mais qu'est-ce qui vous garantit, monsieur le gouverneur? Allô, monsieur le gouverneur, oui. excusez-moi de vous interrompre, mais qu'est-ce qui vous garantit que cette fois-ci, ça sera la bonne?
Oui, je pense que là, ce qui garantit que ce sera la bonne, c'est que cette fois-ci, ce n'est pas entre deux États, à savoir le Rwanda et la RDC d'une part, ou le Rwanda et l'Ouganda de l'autre. C'est cette fois-ci entre tous les 11 États, plus les mécanismes qui est chargé du suivi, à savoir l'Union africaine, les Nations unies, la SADC et la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Je vois que c'est cela la garantie de la bonne foi. Le deuxième élément d'analyse, c'est que je relève que les Nations unies comprennent effectivement qu'il y a un projet de balkanisation du pays, parce qu'ils disent dans l'accord qu'il faudrait que les États cessent de respecter plutôt la souveraineté et l'intégrité territoriale. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de ce respect de l'intégrité, je ne pense pas qu'on pense de la République centrafricaine, certainement qu'on pense des États que tout le monde peut déjà deviner. Et que donc, cela note une volonté manifeste des Nations Unies de voir les États ne plus concocter des projets qui ont pour objectif de devoir balkaniser les pays. Vous savez qu'il y a quelques temps, le sous-secrétaire d'État américain Johnny Carson avait dit qu'on doit trouver des solutions à la RDC comme on en a fait en Yougoslavie et au Soudan. Or, la Yougoslavie est sortie avec plus de 5 États, le Soudan est sorti avec 2 États. Donc, les États-Unis garantissent à tout le monde qu'ils ne peuvent pas appuyer un projet de balkanisation. Le troisième élément d'analyse, c'est qu'à mon sens, la communauté internationale donne sa volonté d'accompagner la République démocratique du Congo. Lorsqu'on voit, par exemple, le point 3 de
l'accord. Allô, monsieur le gouverneur, on a un problème.
La protection est interrompue par des foisonnements des groupes armés qui déstabilisent la bonne foi et la bonne marche des programmes de réforme du secteur de sécurité par le gouvernement congolais. Donc je considère que ce sont là les trois éléments d'analyse que je peux ressortir à ce stade pour démontrer que désormais les Nations Unies veulent accompagner la RDC vers la restauration totale de l'autorité de l'État.
Alors monsieur le gouverneur, il y a certains auditeurs qui pensent que avant la signature de cet accord égale après la signature, vous-même vous l'avez dit, il y a eu plusieurs accords signés entre la RDC, le Rwanda, l'Ouganda, mais sans suite favorable. Beaucoup de gens restent quand même assez sceptiques quant à la mise en œuvre de cet accord.
Non, moi je pense que lorsqu'on regarde les différents points de cet accord, le point 10, 11, qui parle des mécanismes, on se rend compte que le mécanisme est très lourd. Les accords précédents ne concernaient que les deux États ou les trois États. Mais cette fois-ci, il y a un mécanisme très rigoureux qui requiert la participation de tous les États membres de la conférence de l'Afrique du Sud sous les bons offices, selon ce que disent les accords, du secrétaire général des Nations Unies, de la Commission de l'Union africaine, de la SADC et de la Conférence internationale. Je ne pense pas que celui qui veut dribbler ou tromper l'opinion puisse tromper à la fois tous ces mécanismes-là à supporter par ces grandes organisations internationales, comme ça a été le cas par la fois passée. Je crois que l'accord a noté que les institutions congolaises ne sont pas faibles, mais elles ont été affaiblies par les cycles de conflits récurrents et de violences persistantes de la part des groupes armés, tant nationaux qu'étrangers. Voilà ce que j'ai fait noter de cet accord que j'ai bien lu une heure après la signature à Addis Abeba.
Alors, monsieur le gouverneur, dans cet accord, on demande par exemple à la RDC de consolider l'autorité de l'État, en particulier à l'est de la République démocratique du Congo, y compris en empêchant les groupes armés de déstabiliser les pays voisins. Est-ce qu'on peut comprendre par là que la RDC a sur son territoire des groupes armés qui sont capables de déstabiliser les pays voisins?
Moi, je pense qu'il faut bien lire l'accord. L'accord dit qu'il y a un engagement renouvelé, c'est-à-dire la RDC est déjà sur les pas de devoir éradiquer les groupes armés, et l'accord dit, à travers cet engagement, la RDC renouvelle son engagement à pouvoir traquer. Parce que, comme vous le savez, il n'y a pas à se les cacher, il y a quelques groupuscules de FDLR, ou des LRA, ou des quelques petits groupes armés étrangers qui sont encore localisés ça et là, c'est tout à fait normal que la RDC s'engage également à poursuivre les efforts qui sont déjà à déployer ça et là. Donc l'accord ne demande pas à la RDC de commencer à fournir les efforts maintenant. Il dit que la RDC doit renouveler son engagement à poursuivre les accords qui sont déjà déployés dans le sens d'éradiquer les groupes armés qui seraient éventuellement localisés ça et là. On ne peut pas se les cacher, il y en a encore certains groupes armés qui sont sur le territoire national.
Alors c'est qu'il y a eu quand même un relâchement de la part du gouvernement quand on vous demande de renouveler l'engagement.
Je ne pense pas qu'il y ait un relâchement. Vous savez que la communauté internationale, lorsqu'on signe un accord comme celui-ci, il ne peut pas, par courtoisie internationale, demander à ce que chaque État s'engage. On ne peut pas s'occuper d'un accord sans qu'il y ait un engagement de la RDC. Comme tous les États voisins ont souscrit à certains engagements, il est normal que la RDC également s'engage à un certain nombre de choses pour montrer sa bonne foi de devoir participer à la pacification et à la stabilisation de l'ensemble de la région des Grands Lacs qui est oubliée depuis une bonne dizaine d'années.
Merci, monsieur le gouverneur Martin Fayoulou. Je rappelle que vous êtes député national de l'opposition et président du parti politique Engagement pour la citoyenneté, le développement et SID. Vous êtes aussi coordonnateur des FAC, c'est une plateforme de l'opposition. Quelle est votre lecture de la signature de cet accord hier à Addis Abeba?
Écoutez, madame, d'abord, je suis très content que le gouverneur Paluku parle du projet de balkanisation du pays et qu'il parle aussi, qu'il cite Johnny Carson qui a proposé, qui a comparé ces mécanismes et cet accord cadre qu'on propose au Congo comme ce qu'on avait proposé à l'ex-Yougoslavie et au Soudan. Donc, ma lecture est la suivante. Si les Nations Unies voulait vraiment aider la RDC, aider la RDC réellement et sincèrement, je crois qu'elle devait commencer par faire certaines choses. D'abord, quand on a promulgué les résultats des élections du 28 novembre 2011, les États-Unis ou les Nations Unies devaient désigner un médiateur pour chercher à résoudre la crise de légitimité née de ces élections. Ça, c'est de un. De deux, au mois d'avril 2012, quand les M23, aidés par le Rwanda et l'Ouganda, avaient commencé à attaquer les territoires du Nord Kivu, les Nations Unies devaient à ce moment-là déjà être en alerte et réfléchir sur ce qu'allait être le nouveau mandat de la MONUSCO, car le Conseil de sécurité devait, vous le savez, adopter une nouvelle résolution le 30 juin 2012. Pour prolonger le mandat donc de la MONUSCO. Rien de tel n'a été fait. Aujourd'hui, on signe un accord cadre. Accord cadre, c'est vrai, confectionné par le secrétaire général des Nations Unies, sans consulter le peuple congolais. Le peuple congolais est totalement à l'écart de cet accord cadre. Et nous disons aujourd'hui...
Vous vouliez qu'ils consultent les peuples congolais, comment?
Mais oui, mais écoutez, vous vous proposez l'accord cadre et qui doit régir les Congolais et que les Congolais ne sont pas au courant.
Mais les Congolais sont représentés par le chef de l'État.
Mais non, madame, c'est une affaire extrêmement importante. Je vous ai dit en liminaire que les Nations Unies, l'ONU, devaient d'abord envoyer un médiateur. Pourquoi ? Pour résoudre la crise de légitimité. Et c'est fort quand on vous dit qu'il y a une crise de légitimité. Cet accord est signé. Est-ce que tous les Congolais sont d'accord avec cet accord? C'est un accord. Vous avez l'article 214 de notre Constitution. Qu'est-ce qu'il faut faire pour un tel accord? Et nous disons aujourd'hui, étant donné qu'il y a crise de légitimité, il faut soumettre cet accord au référendum. Il faut que le peuple se prononce. Quand on vous cite les 6 engagements de la RDC, mais les 6 engagements, ce sont des questions qui relèvent de la souveraineté d'un État normal, tel que c'est prévu dans l'article 1er de notre Constitution. Pourquoi on doit demander à la RDC de restructurer son armée? On doit demander aux Congolais de se réconcilier et de continuer la démocratie, c'est bien beau. Mais pourquoi dans le même accord, on ne demande pas ces engagements au Rwanda et à l'Ouganda? Pourquoi on ne demande pas? Pourquoi est-ce que cet accord ne pouvait pas se limiter seulement aux engagements de la région, par exemple? Pourquoi la RDC, oui, vous devez vous réconcilier, pourquoi la RDC, vous devez continuer la décentralisation, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on est entré dans le détail du programme ou des prérogatives du gouvernement rwandais ou du gouvernement ougandais pour leur dire, faites ceci, faites cela? Pourquoi on n'a pas demandé, au gouvernement ougandais de voir avec la LRA? Pourquoi on n'a pas demandé au gouvernement rwandais de régler le problème entre les Tutsis et les Hutus qui sont dedans? Nous disons simplement que cet accord cadre, c'est une mise sous tutelle formelle de la RDC. Donc, c'est malheureux de constater et je suis très très content que le gouverneur Paluku parle de cette balkanisation, ces projets de balkanisation, et nous comprenons que quand Carson dit qu'il y a des projets, il faut un mécanisme subtil. J'insiste sur ces mots subtils. Pour la RDC. Mais le problème, c'est que...
Vous ne croyez pas en cet accord,
c'est... Non, je ne crois pas. Je crois que c'est sincèrement un problème que nous avons. Nous revenons en 1961. Il faut qu'on soit responsable. Il faut qu'on fasse des analyses poussées. Nous revenons quand on avait l'ONUC ici. Et voilà, les Congos revient 53 ans ou 52 ans en arrière. Pourquoi? Parce qu'il y a une faillite total de l'État. Pourquoi? Parce que le mode d'accès au pouvoir aujourd'hui, qui est reconnu partout dans le monde entier, le mode d'accès qui sont les élections, on ne veut pas utiliser les élections au Congo. On utilise la force. Quand on prend les armes, quand on se sert de la force, les gens comprennent. Et c'est comme ça que les gens se permettent aujourd'hui d'aller siéger avec les M23, parce que les M23, ces messieurs et ces dames ont pris des armes. Quand on fait un hold-up électoral, on se dit oui. Or, les Nations Unies, qui sont des garants de la démocratie dans le monde entier, et quand les Nations Unies ont vu que le processus démocratique au Congo, le processus électoral a déraillé, c'est à ce moment-là que les Nations Unies devraient intervenir. Et donc, merci. nous disons aujourd'hui, c'est une totale distraction et l'accord est signé. Comme il est signé, il faut venir au Congo et demander au peuple congolais de se prononcer.
Merci, honorable Martin Fayulu. Professeur Félicien Kabamba, vous êtes professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Vous avez suivi les analyses du gouverneur du Nord Kivu qui se dit satisfait par la signature de cet accord, et l'honorable Fayulu qui estime que c'est une mise sous tutelle formelle de la RDC. Qu'est-ce que vous en pensez? Allô? Allô, professeur?
Vous m'entendez?
On a un problème de ligne. Essayez de bouger pour que la communication s'améliore.
J'ai dit que je crois que la signature de cet accord n'est pas une mauvaise chose. c'est parmi les nombreuses initiatives que l'on prend aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays pour mettre fin au désordre qui règne à l'est du pays. Alors, je crois que quand vous lisez très bien cet accord, vous trouvez qu'ils sont partis de l'identification de causes de ce qui règne à l'est comme désordre, et ils identifient les causes et après, ils essaient de proposer quelques résolutions, quitte à savoir si ce qui est proposé comme résolution va tenir la route. La première de cause qu'ils ont identifiée, mais qui n'apparaît pas, mais elle apparaît à travers les résolutions qu'ils prennent, c'est la faiblesse de l'État. Et donc, ils responsabilisent l'État et préconisent la réforme des services de sécurité de l'État et donc la réforme même de l'État congolais. Parce que quand vous allez à l'est du pays, vous vous rendez compte que vous avez affaire à une zone de non-droit, à un territoire où l'État n'existe pas. Et de ce point de vue, ils préconisent de reformer l'État et de rendre l'État responsable par rapport à ses fonctions régaliennes. Et moi, je crois que ce n'est pas une mauvaise lecture. Il faut absolument que l'État congolais prenne ses responsabilités, parce que si aujourd'hui, il y a des ordres qui règnent à l'Est, s'il y a une prolifération des milices à l'Est, c'est entre autres parce que l'État congolais n'a pas su jouer correctement son rôle. Deuxièmement, il responsabilise les pays frontaliers, en particulier le Rwanda et l'Ouganda. Ces deux pays sont accusés de temps en temps d'intervenir dans ce qui se passe au pays. Et d'ailleurs, il est toujours étonné que l'une des causes principales de la débâcle du pays à l'est du pays, c'est l'intervention de ces deux pays dans ce qui se passe chez nous. Et donc, on enjoint à ces pays de ne pas intervenir et de ne pas soutenir les milices armées et les rébellions qui prolifèrent dans notre pays. Et je me rends compte que c'est également une cause qui a été traduite dans ces documents sous forme de résolution. Et enfin, il parle de Nations Unies, parce que les Nations Unies ont déployé une force assez importante au pays, de plus de 17 000 hommes. Alors, le mandat qui est assigné à cette force me semble être faible et ne permet pas à celle-ci d'être assez efficace. Et donc, le renforcement de ce mandat peut évidemment permettre à la future force qui sera déployée à l'est du pays d'avoir les moyens juridiques suffisants pour faire face à tout ce qu'il attend de ce côté-là. Et donc, je me dis que, au niveau des intentions, l'accord traduit effectivement toutes nos attentes, mais seulement, on ne peut pas dire aujourd'hui que ces mesures vont réussir. Tant il est vrai que, au niveau du Rwanda et de l'Ouganda, l'argument qui a toujours été soutenu, c'est que les désordres qui se passent à l'est du pays peuvent déborder les frontières et venir créer le chaos chez eux. Et donc, ils se disent qu'ils peuvent venir, ils sont donc fondés à venir intervenir chez nous. Et donc, aujourd'hui, je ne sais pas s'ils vont se passer de cet argument, un argument sécuritaire, ou ils vont accepter de se plier, évidemment, aux résolutions de cet accord. Là, il y a une grande incertitude qui règne, et je ne crois pas que le fait d'avoir signé cet accord, ce pays vont respecter toutes les résolutions de cet accord.
Alors, professeur, il y a certaines personnes qui se demandent pourquoi dans cet accord, on n'a pas cité le Rwanda et l'Ouganda comme étant les agresseurs de la RDC, alors que tout le monde le sait. Il fallait qu'on cite nommément ces deux pays dans cet accord pour les pousser à prendre au sérieux l'accord qu'ils ont signé hier à Addis Abeba.
Je crois que cet accord a été négocié pendant longtemps. Probablement que le temps qu'il a pris était un temps de négociation pour trouver les meilleures formulations et amener tout le pays à signer. Et ce n'est pas toujours très facile que tout le pays se mette d'accord sur les formulations. Eh bien, nous, Congolais, on serait bien joyeux de voir que ces deux pays soient nommément cités, mais je crois qu'il y a des impératifs de formulation et d'adhésion de tout le pays à l'accord qui probablement doit avoir joué.
Alors la société civile du Nord Kivu a réagi après la signature de cet accord cadre hier à Addis Abeba. Il est plus qu'urgent que la force internationale neutre soit déployée à l'est de la RDC pour combattre les groupes armés et forces négatives. En plus que les États signataires et même ceux de la région soupçonnés d'appuyer les M23 adhèrent réellement au prescrit de cet accord. C'est en ce sens que réagit la coordination de la société civile du Nord Kivu après la signature, je l'ai dit, dimanche à Addis Abeba de l'accord cadre pour la paix dans l'est de la RDC. On écoute Omar Kavota, porte-parole de la société civile du Nord Kivu, au téléphone de Gisèle Cage.
Nous nous félicitons de la signature de cet accord cadre et nous considérons que cet accord cadre devait être mis en application sans hypocrisie afin de rassurer la population congolaise du retour effectif de la paix à l'est. Nous estimons qu'il est plus qu'urgent que soit éradiqué le M23, le FDLR, les ADFNALU, les FNL et toutes les milices locales qui continuent à déstabiliser la paix. Et aussi, nous estimons que les Nations Unies devaient faire de manière à ce que célérité soit observée pour limiter les souffrances des populations du Nord Kivu. C'est-à-dire, la voie de la force internationale neutre pour éradiquer les groupes armés devait être envisagée le plus tôt possible. Si on n'envisage pas la voie de cette force internationale neutre, alors on va assister au chaos. Parce que les groupes armés vont poursuivre leur activisme et la population va continuer à souffrir. La déstabilisation et l'insécurité vont toujours monter en flèche.
Professeur Félicien Kabamba, il est plus qu'urgent que la force internationale neutre soit déployée à l'Est après la signature de cet accord cadre.
Exactement. La signature de l'accord cadre est quelque chose qui me semble important, mais beaucoup plus la mise en œuvre de cet accord. Il faut absolument que cet accord soit respecté et soit mis en œuvre. Mais il faut ici souligner que le déploiement de la force ne résoudra pas tout le problème. Il faut absolument que l'État congolais soit en mesure de prendre en charge la gestion de l'État. Il faut que, après les forces extérieures, que les forces, que les FRDC soient en mesure de sécuriser l'Est du pays. Parce qu'en fait, les forces étrangères ne viendront pas s'implanter durablement et de manière assez indéfinie sur notre territoire. Il faut absolument que l'État congolais soit en mesure de se préparer par rapport à ce défi immense.
Alors,
si l'État congolais ne s'était pas, eh bien, vous allez indéfiniment faire appel aux forces étrangères et je me rassure que, rassurez-vous, que ça ne sera pas toujours facile.
Merci, professeur. Monsieur le gouverneur, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écrivent. C'est le cas de Nestor de Kisangani en province orientale qui dit ceci. C'est un accord des plus. La paix durable passe par l'option militaire afin d'éviter ce cercle vicieux, rébellion, négociation et intégration. Abdon Tachara dit ceci. Je pense que cet accord est un passe-temps tant que la RDC ne sera pas dotée d'une armée républicaine. Et Mike Akili de Walikale au Nord Kivu, je veux savoir si les exigences contenues dans ce document signé à Addis Abeba ne sont pas les mêmes que celles soulevées par les M23. Je prends l'exemple du point où on demande à la RDC de promouvoir les objectifs de réconciliation nationale, de tolérance et de démocratisation.
Non, je pense que les auditeurs sont lassés par la situation que l'Est traverse depuis une dizaine d'années. Ils se disent, mais qu'est-ce que cet accord va encore donner ? Ils ont raison de pouvoir douter, mais à mon sens, je ne considère pas que ce soit un passe-temps, parce que la bonne foi dans la mise en œuvre de cet accord, à mon sens, c'est les mécanismes qu'on a appelés 11+4, c'est-à-dire les 11 États de la région des Grands Lacs, plus les 4 organisations internationales, à savoir les Nations Unies, l'Union Africaine, la SADC et la CIRGL. Je crois que ces mécanismes-là, 11+4, est une garantie pour que désormais, ceux qui étaient en train de distraire les autres dans la mise en œuvre de l'accord ne le fassent pas. Parce qu'on a dit que c'est le secrétaire général qui va jouer les bons offices dans la mise en œuvre de cet accord. Je comprends les inquiétudes des gens, mais je considère que c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous avons connu comme affres de guerre, avec les incertitudes qu'il y a, les gens se disent, est-ce que ce énième accord viendra apporter quelle solution? Moi, je considère, et je dois rassurer toute l'opinion, que pour une fois, je suis en train de croire que cet accord va être salutaire pour l'Est, surtout au regard de l'engagement des États, même si on n'a pas cité, comme d'autres auditeurs ont dit, les États voisins qui sont impliqués dans la déstabilisation de la RDC. Je l'ai dit, quand on dit qu'on ne doit pas s'ingérer dans les affaires intérieures, dans le, qu'on doit respecter l'intégrité du territoire, en tout cas on ne parle pas de la RCA ou de la Zambie. Les États nommément cités sont ceux-là que les experts des Nations Unies ont clairement définis. Donc c'est clair que les Nations Unies ont identifié les États qui ont souvent troublé la région, et je crois que c'est un droit accusateur à travers cet accord et une interpellation pour dire désormais, si vous faites ce que vous aviez fait avant, eh bien tous les États, vous allez les retrouver sur votre dos. Je crois que c'est ça l'essence de cet accord.
Alors, honorable Martin Fayoulou, comment peut-on vulgariser le contenu de cet accord? Parce que tout le monde n'est pas en possession de l'accord cadre qui a été signé hier, puisque vous voulez que le peuple congolais puisse l'adopter ou l'accepter par référendum, comme vous l'avez dit.
Tout à fait. Mais c'est que je voulais revenir sur ce qu'a dit le professeur. Le désordre qui règne à l'est. L'est du pays, c'est très vague. Le désordre qui règne dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, et même dans la province orientale. Et voilà comment nous sommes devenus comme des naïfs. Parce que le Rwanda et l'Ouganda ont réussi à exporter leur guerre interne dans notre pays. Avec, bien sûr, la complicité des dirigeants actuels. Le Rwanda, chef de file du pays agresseur, a installé le pouvoir de Kinshasa et veut empêcher l'installation des pouvoirs congolais compétents. C'est ça le problème. Donc, quand on dit les désordres, mais ces désordres-là ne sont pas venus ex nihilo. C'est, on sait d'où vient le désordre, dans les provinces que je viens de citer. Donc, c'est les Rwandais, les Ougandais qui ont créé ces problèmes. Et maintenant, voilà, pour régler ces problèmes, il faut les 11 plus 4. Mais pourquoi on ne met pas la CEAC dans ces mécanismes de contrôle? Donc, vous devez avoir un mécanisme. Donc, des gens qui viennent contrôler ce qui doit se passer chez vous. Pourquoi, quand on a eu des élections bâclées, on n'a pas mis en place un tel mécanisme? Pourquoi? Donc, nous disons simplement qu'il ne faut pas être naïf. Je vais dire, qu'est-ce que l'accord maintenant, comment l'accord va résoudre le problème de poursuite de Bosco Ntaganda et de Kunda Batware par la CPI? Donc on laisse tomber, on fait table rase, et que dit l'accord, que devient le M23? Dans l'accord, on ne parle pas de la force spéciale d'intervention, vos auditeurs l'ont dit, qui devait se charger de neutraliser le M23 et les autres forces négatives. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant?
Mais l'accord demande aux pays de la région de ne pas héberger ni fournir une protection de quelque nature que ce soit aux personnes accusées des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, d'actes de génocide ou crimes d'agression. Il y a quelque chose qui est prévu.
Mais non, mais c'est quelque chose. On a déjà dit ça. Les experts des Nations Unies ont dit que le Rwanda était, pays agresseur, que l'Ouganda était pays agresseur. On a demandé. Il y a même des nations ici européennes qui ont arrêté leurs aides à l'égard du Rwanda. Est-ce qu'ils ont arrêté? Donc, alors maintenant vous parlez de la vulgarisation.
Brièvement.
Nous allons continuer. Nous avons commencé des tribunes citoyennes. Nous avons fait ça samedi déjà et nous allons continuer ces tribunes citoyennes pour informer la population.
Alors, quel pourrait être l'impact de la signature de cet accord cadre dans la pacification de l'Est de la RDC? C'est la deuxième partie de notre débat de ce soir. Prenons la parole après la signature de cet accord. Le secrétaire général des Nations Unies a rappelé l'engagement du gouvernement congolais à mener des réformes internes. Ban Ki-moon a également félicité tous les chefs d'État signataires de cet accord. Suivez cet extrait du discours du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, propos recueillis par Mimi Ngumba Mulongo.
Le gouvernement de la République démocratique du Congo s'engage à mener certaines grandes réformes internes. Monsieur le Président Kabila, vous devrez jouer un rôle moteur que les réformes progressent résolument. L'ONU est prête à vous prêter son concours. Je me félicite également que les chefs d'État de la région de Grand Lac se soient engagés à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des pays voisins, à renforcer l'intégration économique régionale et à ne tolérer ni à aider ou soutenir d'aucune façon quelques groupes armés, quoi que ce soit.
C'était le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, professeur Félicien Kabamba. Pensez-vous que cet accord cadre pourrait avoir un impact dans le cadre de la pacification de l'Est de la RDC?
Oui, cet impact peut avoir un cadre si les différentes parties acceptent de le mettre en œuvre. Et l'une des parties la plus concernée, c'est la RDC. Donc, il faut absolument que Kinshasa engage des réformes en profondeur de l'État, et en particulier des services de sécurité de l'État. Aujourd'hui, si nous ne sommes pas en mesure de garantir la sécurité de notre territoire, parce que nous avons une armée qui est totalement désorganisée. Regardez comment les règles en matière d'attribution des grades, comment ces grades sont attribués au niveau de l'armée. On a comme l'impression qu'il n'y a aucune règle qui obéit, en fait, à l'attribution des... Alors, nous sommes là dans une situation qui est vraiment chaotique et qui nécessite qu'on engage des réformes en profondeur. Il faut également rompre le lien qu'il y a entre l'armée et l'exploitation de minerais. Il n'y a aucune armée affairiste qui peut gagner une guerre. Or, notre armée est une armée qui fait des affaires. Aujourd'hui, s'il faut réformer une armée, donc notre armée, il faut absolument qu'il n'y ait pas de lien entre les affaires économiques et les affaires militaires. Il faut les séparer. Il y a énormément de choses, il y a énormément de chantiers de ce côté-là. Et si nous nous attendons des effets, c'est d'abord des effets de ces côtés-là. Il faut absolument appliquer l'accord, et appliquer l'accord, c'est réformer l'État, c'est réformer les services de renseignement. Mais aussi, ce que nous attendons, ce sont des signes positifs du côté des pays frontaliers. Il faut absolument que ces pays prennent conscience du fait qu'il faut qu'ils arrêtent absolument leur soutien aux milices extérieures, donc aux milices qui prolifèrent dans notre pays. Parce qu'il faut dire que ces milices sera vital et sont soutenues par ces pays frontaliers qui n'ont pas été nommément cités dans les accords. Donc, les pays frontaliers vont continuer à apporter leur soutien à ces forces négatives, évidemment, il sera difficile pour nous de nous en sortir si nous n'arrivons pas à nous organiser au niveau de l'armée. Nous attendons l'application de tout ce qui a été dit au niveau des accords. Il faut les concrétiser. C'est en ce moment-là que nous pouvons avoir des résultats assez palpables.
Alors, professeur, il y a cet auditeur, Kenny Mukendi, qui dit ceci. La véritable paix, la plus durable même, doit commencer à l'intérieur. Tant qu'il y aura des frustrations, tant qu'il y aura des injustices, tant que la question des fraudes électorales demeurera sans réponse, ce que vous appelez paix sera toujours loin de l'être. Brève réaction.
Bien, évidemment, quand on parle des élections, on est toujours là dans les réformes, hein? On est toujours là dans les réformes. Il faut engager des réformes qui garantissent au pays une sécurité sur une longue durée. Il ne faut pas des réformes cosmétiques et conjoncturelles. Il faut absolument des réformes adaptées aux besoins du pays. Donc, le mot réforme est un mot qui, à mon sens, regorge une extension et une compréhension beaucoup plus grande. Il faut le comprendre à sa juste valeur.
Merci, monsieur le professeur. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, vous pensez que cet accord aura un impact dans la pacification de l'Est de la RDC?
Oui, assurément, madame, cet accord a un impact très très grand. Ici, il faut saluer d'ailleurs la grande percée du président de la République qui a réussi pour une fois à faire signer particulièrement au président des États voisins une disposition selon laquelle ils ne peuvent plus héberger, comme vous l'avez dit, ni fournir une protection à quelconque, à des gens qui sont poursuivis par la CPI ou des gens qui sont reconnus ou qui sont sous le régime des sanctions des Nations Unies. Or, vous savez que Laura Kunda est à Kigali, Moutebousi également, de temps en temps, Bosco Ntaganda fait des navettes entre la RDC et le Rwanda, tout le monde le sait. Je crois que cet accord procède par une théorie d'encerclement. C'est-à-dire, on a encerclé les États voisins qui ont toujours fourni de l'aide à tous ceux qui nous déstabilisent, de manière à ce qu'aujourd'hui on peut noter que les États voisins qui avaient refusé de signer les statuts de Rome qui demande à ce que les gens poursuivis par la CPI soient extradés, je crois que le président de la RDC a réussi à faire signer et au président Kagame et au président Museveni tacitement les statuts de Rome, parce qu'ils viennent de confirmer que désormais ils vont faire une coopération judiciaire pour devoir transférer les personnalités qui sont reconnues comme poursuivies par les instances internationales. Donc cette théorie d'encerclement est une grande réussite de la part du gouvernement congolais, parce qu'on note désormais que aujourd'hui, quand la force va venir, les Makenga et tous ses collaborateurs, Bosco Ntaganda et tous ses collaborateurs, ainsi que tous ceux qui sont poursuivis ou sous régime des sanctions des Nations Unies, ne peuvent plus trouver asile au Rwanda, sinon le Rwanda sera lié par cet accord qu'il a signé. Et moi, je considère que s'il pouvait être sincère avec lui-même, il n'y a plus de raison pour le Rwanda de ne pas signer les statuts de Rome, parce qu'il vient de signer l'accord d'Addis Abeba qui lui donne obligation de coopérer judiciairement avec les autres États pour transférer tous ceux qui sont poursuivis, mais également de ne plus abriter tous les criminels de guerre comme cela est connu et par les Nations Unies et par les États-Unis d'Amérique. C'est donc une grande percée pour la République démocratique du Congo.
Merci, honorable Martin Fayoulou. Il est prévu la mise en place d'un mécanisme de suivi. Est-ce que c'est une garantie pour que cet accord cadre soit respecté?
Non, l'accord cadre ne sera jamais respecté. Tout le monde a reconnu qu'il y a un projet de balkanisation du Congo. Tant qu'il y aura des porteurs politiques internes de ces projets de balkanisation, on ne pourra pas réussir quelque chose. Parce que, vous savez, il y a plusieurs éléments. Il y a ces porteurs-là et il y a des pions naïfs. Il y a des gens qui croient avancer et qui pensent que voilà, les gens font un travail sérieux ici. Non, il y a le projet de balkanisation. Qui est porteur de ces projets de balkanisation ici au Congo? Qui, ces gens sont truffés dans les institutions de la République? Donc, je ne pense pas que ces projets, cet accord cadre pourra avoir un impact si ces gens-là, qui sont porteurs de ces projets maléfiques de balkanisation du Congo, s'ils sont toujours en place.
Alors, il nous reste moins de 3 minutes pour mettre fin à cette émission. Je vais vous demander de conclure, honorable Martin Fayoulou.
Mais écoutez,
vous restez pessimiste.
Je suis pessimiste parce que j'ai dit qu'il y a des porteurs politiques internes. Je vais vous dire, la brigade formée par des Belges, cette brigade qui a été formée à la province orientale, pourquoi cette brigade n'est pas partie combattre contre l'M23? Les 18 brigades intégrées mises en place pendant la transition, pourquoi on a démantelé? Vous faites, on refait toujours les choses ici. Pourquoi? Donc, je suis pessimiste. Tant qu'il n'y aura pas de démocratie, tant qu'il n'y aura pas des dirigeants politiques choisis par le peuple congolais, et on aura toujours ces problèmes.
Merci, Martin Fayoulou. Professeur Félicien Kabamba, conclusion.
La plus grande conclusion qu'on peut tirer, nous devons tout faire pour ériger un État, pour déployer l'État. L'État est absent dans beaucoup de territoires. Il faut le déployer. Il faut créer l'État là où il n'est pas là. C'est de cette manière-là que nous pouvons faire face à toutes sortes d'agressions et toutes sortes de gens.
Merci, professeur Félicien Kabamba. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, vous allez conclure aussi. Mais entre-temps, il y a un auditeur qui demande que devient Kampala.
Non, je pense que Kampala n'est pas en contradiction avec ce qui se passe. Le mécanisme régional est inférieur à un mécanisme international, c'est clair. Donc aujourd'hui, je pense que le peuple congolais doit être satisfait du fait que les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne même, parce qu'elle est aussi citée, se sont rendus compte qu'ils ont laissé pendant longtemps la RDC entre, disons, la déstabilisation de certains États voisins, et que désormais, tous les États du monde, tous les mécanismes internationaux seront mis à contribution pour accompagner la RDC pour sa stabilisation. Je crois que c'est ce qu'il faut noter de cet accord. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, le Rwanda, qui n'a pas signé les statuts de Rome, vient de le signer tacitement en signant cet accord qui lui interdit d'abriter tous les criminels de guerre qu'il a toujours abrités sur son territoire. Et donc, j'estime que c'est une grande...
Merci.
Pour la RDC et pour les chefs de l'État qui a réussi à faire
signer cet accord. Merci, monsieur le gouverneur. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais. Guy Maté, Alain Hung, Samuel Kachak sous la supervision de Péléki Pélamondo. Merci à Héritier Sidia Kala qui est à la technique. Au micro, Kéline Couté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bonsoir chez vous et bonne suite de programmes sur la fréquence de la paix.